Oui, merci, bonjour. Alors aujourd'hui, on m'a demandé, donc à l'invitation des organisateurs de cette rencontre, de vous présenter un... Il y a quelque chose qui ne marche pas ? Si ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? De vous présenter donc faire cette présentation sur le thème de l'extrême précarité et de sa relation avec la santé. C'est pas une petite affaire dans la mesure où la relation comme ça paraît évidente entre la pauvreté, l'extrême pauvreté, le dénuement et une altération de la santé. Mais quand on y réfléchit un peu, Elle n'est pas si diencéphalique que ça. En plus de ça, il faut replacer cette présentation dans le cadre marseillais, dans le cadre de la précarité qui concerne une frange non négligeable de la population marseillaise, et au sein de cette population précaire, peut-être un focus particulier sur les familles roms migrantes d'origine roumaine et bulgare. Alors, c'est vrai que c'est la deuxième diapo, s'il vous plaît. Il est vrai que, déjà, d'évoquer le sujet de la grande précarité, de la grande pauvreté, c'est quelque part un peu choquant. Et on se dit, mais est-ce qu'il est encore aujourd'hui, en 2011, à Marseille, dans une ville qui n'est pas, est-ce qu'il est encore possible d'être pauvre et démuni et précaire à ce point ? Ben oui, c'est possible. On ne va pas rentrer dans le détail des possibilités pour les gens, mais vous verrez qu'à travers l'expérience de Médecins du Monde et ce que je vais vous en dire, cette extrême précarité concerne une certaine frange de la population qui, par son parcours, souvent qui est un parcours migratoire ou par les accidents de vie qui ont pu se produire, etc., se trouve confiné à la grande et l'extrême pauvreté. Nous sommes témoins, à Médecins du Monde, de l'impact négatif de la grande pauvreté et de la grande précarité sur la santé des gens qui en souffrent. La question est de savoir si il faut se résoudre à cette fatalité ou si, grâce à la synergie des uns, des autres, des associatifs, de la société civile, des institutions, s'il est possible, s'il est imaginable de réagir et d'agir. On va voir que c'est peut-être envisageable. Troisième diapo. D'abord, il faudrait peut-être, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de pauvreté, de misère, de précarité, je pense qu'il faut déjà, pour essayer de clarifier les choses, apporter une définition à la pauvreté et à l'extrême pauvreté, qui est une espèce de superlatif à la pauvreté. Alors, l'OMS, dans une espèce de définition un peu brutale, définit la pauvreté absolue comme une situation où celui qui en souffre ne dispose pas des $1.25 suffisants pour assurer sa survie, ça. $1.25. C'est une situation qui concerne plus d'un milliard de nos concitoyens, de nos compagnons sur la boule, hein, sur un milliard d'hommes dans le monde sont confrontés à ce genre de dénuement. À Marseille, en France, en 2011, la pauvreté se définit différemment, pas de façon absolue, elle se définit en rapport avec un seuil, c'est-à-dire le revenu médian. Tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier de plus de 60% du revenu médian, c'est-à-dire c'est un revenu qui partage la population en deux. Autant de personnes gagnent moins, autant de personnes gagnent plus. Lorsqu'on ne dispose pas de ces 60% du revenu médian, on est considéré comme pauvre en France aujourd'hui. Alors c'est évident que c'est encore un peu brutal, parce que disposer de 961 euros, je crois que ça représente, à Paris, c'est effectivement être dans une gêne très, très particulière. Disposer de la même somme à Lunel, à Aurillac, c'est peut-être plus simple. Ces seuils sont modulés, hein, en fonction de, c'est ce que vous disiez là-haut, un couple est réputé pauvre s'il ne dispose, lorsqu'il y a un couple isolé, de 1200 euros. Avec deux enfants, c'est pratiquement 2000 euros. Je vous rappelle que le SMIC net est autour de 1073 euros. C'est un chiffre que j'ai trouvé pour le début de l'année. C'est ça? C'est vrai. Cette façon de définir la pauvreté permet de dénombrer en France, et c'est ce qui a fait grincer pas mal de dents lorsque ça a été publié, 8 millions de personnes réputées pauvres par rapport au reste de la population. Donc sur les 63 millions, il en restait quand même un certain nombre. Et ça représente 12% de la population. 12% de la population est réputée pauvre suivant ce critère-là. Hein. Mais il faut bien savoir que c'est une notion quand même très relative. Hein. Pardon. La pauvreté donc qu'on envisage aujourd'hui, ce critère de pauvreté qu'on envisage là, est un critère exclusivement monétaire, mais qui est très souvent associé à d'autres pauvretés, pauvreté matérielle, hein, le fait de ne pas disposer d'un certain nombre d'éléments de confort ou de logement ou de matériel ou existentiel, hein, le fait de ne pas pouvoir, par la faiblesse de ses revenus, ne pas pouvoir disposer d'un certain nombre d'activités culturelles, sociales, de loisirs, etc. Pauvreté administrative, vous la connaissez tous, c'est la pauvreté qui est reconnue à ceux qui sont bénéficiaires des minima sociaux, par exemple. Pauvreté subjective, eh bien, c'est un sondage qu'on pourrait faire dans la salle, il paraît que 20% des Français se considèrent pauvres. Bon, objectivement, 12 simplement, donc il y en a 8 qui, objectivement, subjectivement se considèrent pauvres, sans l'être de façon monétaire, pécuniaire. Parmi ces pauvres, qui ne sont pas du tout une espèce de quelque chose d'homogène, mais qui est très hétérogène, il y a ceux qui tendent vers le haut de la fourchette, et puis ceux qui tendent vers le bas de la fourchette. Et alors là, il faudrait peut-être passer à la... Voilà. Médecins du Monde est, je dirais, spécialiste de ceux qui sont au bas de cette fourchette et de ceux qui, parmi les pauvres, sont les plus démunis. On a cette notion précarité, pauvreté, c'était juste pour vous donner mon sentiment concernant l'introduction de la précarité la précarité, c'est une fragilité. Hein. Le fait d'être pauvre, c'est une donnée économique, mais le fait d'être précaire, c'est le fait d'être fragile et dépendant d'événements qui peuvent survenir extérieurs à sa propre volonté. Moi, je pense à la précarité, par exemple, je pense aux expulsions. L'expulsion qui est décidée par un tiers. C'est pas un déménagement volontaire, l'expulsion, et c'est quelque chose qui va aggraver la pauvreté. Et c'est dans ce sens-là que la précarité vis-à-vis de la pauvreté induit une notion dynamique, hein, et une notion d'instabilité et de dépendance à l'autre. On va rester sur une notion simple de une définition monétaire de la pauvreté pour simplifier. Hein. Vis-à-vis de ça, dans le la présentation, ce qui est important, c'est de faire le parallèle et puis les interconnexions entre ce que peut représenter la grande pauvreté et la santé. Donc il faut venir à une définition de la santé que vous connaissez tous, la définition de l'OMS, c'est qui est définie comme non pas une absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de complet bien-être physique, mental et social. Apparaît à ce moment-là, la santé déjà apparaît, dans la pauvreté, dans la définition de la pauvreté, la pauvreté déjà dans sa définition vient compromettre la santé par elle-même. Hein, c'est-à-dire que c'est la santé qui est à la fois cause ou conséquence de la pauvreté, est élément constitutif de sa définition. C'est-à-dire le fait de pas être en bonne santé déjà est un élément de dénuement ou de pauvreté. On va peut-être passer... Si, c'est intéressant. La suivante, donc, pauvreté et santé et droit. La pauvreté, c'est quelque chose qui est subi. C'est pas quelque chose de choisi, à l'exception de quelques personnes qui, par conviction religieuse, font vœu de pauvreté. La pauvreté, c'est quelque chose de subi. La santé, c'est un droit. La santé, c'est un droit, c'est précisément un droit créance constitutionnel. C'est-à-dire que c'est un droit constitutionnel, mais un droit constitutionnel qui ne peut s'exercer que si l'État ou la collectivité en permet l'exercice. Contrairement, je vous donne un exemple, le droit à la propriété, par exemple, est un droit constitutionnel qui n'a besoin de personne, d'aucune activité, d'aucune... pour s'exercer. Le droit à la santé, si par exemple l'État ne construit pas d'hôpitaux, il n'y a pas de santé possible. Donc le droit à la santé est patent, il est institutionnel, il est constitutionnel, mais il demande l'intervention des pouvoirs publics pour s'exercer. Le droit à la propriété, vous le verrez, est prééminent sur le droit à la santé. Quand il y a des jurisprudences, on expulse, même si ça expose les gens à des conséquences physiques sur leur santé. Voilà. C'est vrai que ce droit a du mal à se réaliser, à être appliqué pour les pauvres et les extrêmement pauvres, ceux que côtoient Médecins du Monde. Pour vous rappeler. Médecins du Monde, donc, je pense que tout le monde connaît à peu près, reçoit en France 28 160 patients ont été reçus. Ces gens sont venus pour des motifs médicaux ou des motifs de consultation, de demande de conseil et d'intervention de type social. Parmi ces 28 160, 3 139 ont été reçus à Marseille. Eh bien, je dis, Médecins du Monde est un spécialiste de la santé des extrêmement pauvres et des extrêmement précaires, parce que parmi cette clientèle, cette patientèle de 3139 personnes, 98% des gens vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Vous allez me dire, c'est pas toute la pauvreté marseillaise. 12% d'un million d'habitants, ça fait beaucoup plus que ça. Mais par contre, pratiquement 33%, le tiers, sont sans aucune ressource parmi les gens que l'on a reçus l'année dernière à Marseille. La suivante, pardon. Médecins du Monde est un acteur de santé qui intervient auprès des pauvres, mais Médecins du Monde est un acteur de santé qui intervient auprès des extrêmement pauvres et des extrêmement précaires, parce que il n'intervient qu'après que les autres institutions, les autres associations aient finalement jeté l'éponge ou ont été dans l'impossibilité d'intervenir. Ce sont bien, vous verrez, les exclus, les sans-droit, les sans-papiers, etc. La suivante. Quels sont les patients qui ont été traités par Médecins du Monde à Marseille et ailleurs en France? Mais ce sont des chiffres marseillais pour cela. Parmi les patients traités, pratiquement 10% sont français. 66,6% sont étrangers extra-européens. Et 24%, et c'est là que l'on va retrouver nos Roms, 24% sont européens. Parmi eux, plus de femmes, pratiquement deux fois, plus d'hommes que de femmes, et quasi 10% de mineurs. Le tout pour un âge moyen d'à peu près 35 ans. Quelle est la suivante? Quelle est la situation administrative au jour de la consultation, au moment de la rencontre, quand les gens viennent consulter un médecin du monde? Pratiquement 30% des gens sont en situation régulière. Ce sont des Français, ce sont des gens qui sont avec des visas touristiques, ce sont des gens qui sont dans les 3 mois de présence permise pour les gens intracommunautaires, etc. Malgré tout, 71,7% sont en situation irrégulière. Pratiquement 16% sont concernés par le droit d'asile. Et là, c'est une chose importante, 70% des gens rencontrés au premier jour de la consultation ont des droits potentiels, et ça c'est des choses qui vont vous parler, des droits potentiels à l'aide médicale d'État et à la sécurité sociale, CMU. Parmi ces 70% de gens qui ont des droits potentiels, 88% n'ont pas de droits ouverts et de droits effectifs. Donc en fait, la loi prévoit pour ces gens des droits, une protection sociale en ouvrant des droits de type AME ou sécurité sociale. Mais dans la pratique, pour tout un tas de raisons, ces droits ne sont pas ouverts et plongent ces gens dans une précarité dont on pourrait faire l'économie. Et c'est là un des aspects, par exemple, sur lequel il sera intéressant de coordonner nos actions pour faire en sorte que cette proportion de 88% de gens qui ont des droits potentiels à l'ouverture des droits ne le soit effectivement. Cette précarité, cette pauvreté, cette surprécarité, cette extrême pauvreté, c'est aussi qui concerne la population vue par Médecins du Monde à Marseille et ailleurs. Elle a une réalité en termes de mode de logement pour ces gens. Il faut savoir que 40% des gens qui fréquente Médecins du Monde et que Médecins du Monde fréquente aussi bien au niveau de ses consultations dans les centres d'action, dans les centres d'accueil et d'orientation que dans ses missions mobiles, et la mission Rome est une des missions mobiles de Médecins du Monde. Pratiquement 40% des gens que l'on rencontre vivent dans des conditions précaires. Les conditions précaires, ce sont les squats, même si c'est un très vilain mot, c'est-à-dire une occupation sans droit ni titre d'un endroit souvent oublié du propriétaire, mais qui se réveille au moment de l'occupation, de terrains, de friches industrielles, souvent négligées, et c'est pareil, qu'on a de cesse de libérer, de l'occupant illégal au moment quand on s'aperçoit que ce sont des Roms qui l'occupent. 10% des gens que nous fréquentons n'ont pas de logement, c'est-à-dire il n'y a pas de toit. C'est la voiture, c'est le trottoir, c'est la porte d'Aix, quand la porte d'Aix était... Seulement 31% des gens, un tiers des gens, ont un logement fixe, dont un tiers d'entre eux disent qu'il est néfaste à leur santé. Cette situation, on constate, alors ça c'est pas au niveau marseillais, je sais pas si, au niveau marseillais on en a la préscience, mais au niveau national, il y a une nette dégradation des conditions de vie depuis l'ouverture de l'observatoire, c'est-à-dire à peu près au début des années 2000, je crois que c'est l'année 2000. Une nette dégradation. À suivre. De quoi se plaignent et quelles sont les pathologies que portent ces patients précaires, grands pauvres, roms ou autres. Pathologies respiratoires, c'est pas surprenant. Grande précarité est souvent corrélée avec tabagisme excessif, très précoce, pollution, exposition à des pollutions, aux pollutions urbaines, grande promiscuité à l'intérieur des à l'intérieur des logements, qui fait que ça impacte la sphère respiratoire. Ces chiffres-là que je vous donne en ce moment sont en fait ont été colligés tout au cours des consultations qui ont été données aux gens par Médecins du Monde, suivant une grille qui s'appelle le CISP, qui classe les maladies par appareil. C'est quelque chose qui est adapté à la médecine de soins primaires. Donc, ce qui domine, pathologie respiratoire, ensuite pathologie digestive, ostéo-articulaire, la peau qui gratte très souvent, parce que grande précarité, c'est aussi une difficulté à accéder à l'eau courante, aux soins d'hygiène. Donc c'est le lit fait aux parasitoses cutanées, et la parasitose, la gale, ben ça gratte, et c'est souvent un objet de plainte. Autre objet de plainte assez significative, les plaintes d'ordre psychologique. La vie dans la rue, la vie en situation de grande précarité, c'est une vie difficile qui impacte le psychisme et qui crée pour certains des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux, des syndromes post-traumatiques. C'est assez compréhensible quand certaines familles, par exemple, ont connu 3, 4, 5 expulsions dans les 6 mois qui ont précédé le jour d'aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que ces gens aient quelquefois un peu de tristesse. La grossesse tout ce qui est la santé maternelle, la santé maternelle concerne à peu près 3-4% des consultations. Chose marquante, parmi les motifs de consultation et les pathologies qui sont relevées lors de ces consultations, 13% des gens affiche des pathologies à potentiel de gravité. Le cancer, l'hypertension, le diabète, l'épilepsie. Enfin, c'est une population normale. C'est juste une population abandonnée. Mais c'est une population normale. Donc, dans cette population-là, comme dans toutes les populations, il y a de grands malades. C'est juste des grands malades abandonnés. C'est les gens que l'on voit. Parmi ces grands malades abandonnés, 35% ont déjà affichent déjà un retard aux soins, et seulement 10% des droits sont ouverts. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Un petit focus sur les femmes et la grossesse. Alors là, ça concerne toujours pareil, le CISP France, au niveau au jour de la rencontre, une femme, et c'est valable pour Marseille aussi. Une femme sur 10 que l'on rencontre à un Médecin du Monde est une femme enceinte. 10% des étrangères sont enceintes, 7% des Françaises sont un petit peu moins concernées. Parmi ces femmes enceintes, 23 ont un logement stable. Mais 77% de ces femmes enceintes vivent à la rue ou disposent d'un logement précaire, c'est-à-dire un hébergement, un squat. Rien d'adapté à l'accompagnement d'une grossesse. 94% des femmes rencontrées la première fois, qui sont enceintes, 94% des femmes n'ont pas de droits ouverts, de droits sociaux ouverts, etc. Suivante. Là, je voulais voilà, vous donner quelques indications suivant en ce qui concerne la prévalence des grands, on va dire des grands fléaux qui accompagnent la grande précarité et la grande pauvreté, comme le reste de la population générale, mais de façon atténuée par rapport à ceux qui baignent dans ce milieu de la grande précarité et qui sont surexposés par rapport aux autres. Dans une enquête portant sur 1700 patients, organisée par le CASO d'Île-de-France, mais qui recouvre la même population que la nôtre, 2,6% de la prévalence du VIH, 11,7 fois plus importante que dans la population générale. Pour ce qui est de l'antigène HBS, c'est-à-dire l'hépatite B, pratiquement 10 fois plus, l'hépatite C, pratiquement 8 fois plus, et pour ce qui est de la tuberculose, alors là, on est à un facteur plus de 80. C'est-à-dire qu'on a 80 fois plus de la prévalence de la tuberculose dans cet échantillon qui est représentatif de la population pauvre, extrêmement précaire, rencontrée et traitée par Médecins du Monde. On a une prévalence qui est pratiquement multipliée par 80 par rapport à ce qu'elle est dans la population générale. Il n'y a aucun doute sur la suivante, pardon, je ne sais plus où on en est là-dedans. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a aucun doute, si on devait pouvoir, on devait faire la démonstration entre l'impact, entre la relation qui peut exister entre extrême précarité et pénalisation en termes de santé, je veux dire, ces chiffres sont suffisamment marquants. Il n'y a pas de doute à avoir. La pauvreté impacte de façon négative la santé. Ok. Et aggrave d'ailleurs la précarité. Oui, ça c'est un... Dans ce cadre-là, est-ce que le droit à la santé, qui est un droit, je vous l'ai dit tout à l'heure, un droit créance institutionnelle, etc., qui est réputé être un droit qui s'applique à tous, pas uniquement aux citoyens français, qui bénéficient d'un revenu supérieur aux 60% du revenu médian, à tous. Comment ce droit à la santé peut-il s'exercer? Il faut effectivement être un peu... on est là un petit peu pour ça, pour essayer de mutualiser nos énergies, de mutualiser notre inventivité, mais je pense que ce droit à la santé, pour nous, comme pour eux, doit s'exercer. Il suffit d'en trouver les moyens. La suivante, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de précarité, je vous ai parlé beaucoup de surprécarité, de pauvreté extrême, sans vous parler spécifiquement des populations roms, parce que je crois qu'il faut désinvestir ce champ-là, et désethniciser, même si c'est un mot affreux, cette question-là. Alors nous, on est médecins, la question de l'impact sanitaire, des conditions de vie que ces familles connaissent, ça renvoie pas à la nature, à la culture, à l'origine des Roms, à leur histoire, pas du tout. Ça renvoie à l'existence scandaleuse de l'extrême pauvreté, et ça nous donne obligation à lutter non pas pour déromiser les Roms, mais à lutter pour faire en sorte que leur précarité avec celle des autres soit améliorée. Le problème avec les Roms, s'il y a une singularité à marquer, à noter, c'est qu'effectivement, quand il existe pour d'autres un semblant d'accompagnement de la précarité, d'accompagnement de la pauvreté, à l'endroit de ces familles repérées, comme ça, à l'endroit de ces familles, On a l'impression que cette précarité, cette surprécarité, cette pauvreté extrême, non seulement n'est pas combattue, mais est entretenue. Et alors, je vous donne des exemples, l'expulsion, les harcèlements, le fait de ne pas permettre aux gens d'accéder au travail salarié, par exemple, le fait de pénaliser la mendicité. On interdit aux pauvres d'être pauvres. C'est la réponse donnée aujourd'hui par le maire de Marseille à la réalité de la pauvreté, de la précarité, avec toutes ces conséquences. Je vous parlais en termes de santé, mais en termes d'habitat, en termes d'absence de perspective et de perspective pour nous tous. À quoi ça rime de laisser ces gosses en friche? Aujourd'hui, ce seront de grands garçons dans quelques années, ce seront des adultes dans 20 ans. Bon. Excusez-moi, Pardon. Donc on revient à notre sujet. Et on est bien d'accord. On veut lutter contre la précarité des familles roms migrantes. Je crois que c'est l'affaire de tous, et nous sommes nombreux aujourd'hui pour montrer que nous sommes relativement tous mobilisés, prêts à agir, à faire preuve d'engagement. C'est l'affaire de tous, et pourtant, il semblerait que, au jour d'aujourd'hui, seul le ministre de l'Intérieur se charge du dossier. Avec celui de la justice, éventuellement. C'est effectivement le problème la présence d'étrangers, même s'ils sont communautaires, même s'ils ne sont pas si étrangers que ça, même s'ils sont quand même très européens dans l'affaire. La présence de ces hommes et de ces femmes pose un problème de légitimité de leur séjour, pose un problème de sécurité quelquefois, pose des problèmes de respect de la loi. Personne n'en disconvient. Mais la présence de ces familles et la problématique qu'elle pose fait appel à infiniment plus de compétences que celles du ministre de l'Intérieur. Quid de l'engagement du ministère de la Santé? Quid de celui de l'éducation, concerné quand même? 40% de la population rome en France est représentée par la population enfantine. Personne n'a rien à dire au gouvernement sur l'accès au logement et à l'hébergement. Alors, au niveau national, bien sûr, je pense que l'approche pour pas dire sécuritaire, mais je veux dire le fait de confier le dossier de la gestion des Roms au seul ministre de l'Intérieur me semble un peu court, et ça ne dédouane pas les institutions locales, qui, elles, par contre, et on les en remercie chaleureusement, ont enfin, parce qu'il aura fallu effectivement quelques années pour eux, pour réagir, et qu'ils le font maintenant avec sans aucune arrière-pensée, avec beaucoup d'énergie, sans charge. Oui, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des mairies, c'est l'affaire des préfectures, quand les préfectures ont un certain pouvoir, c'est l'affaire des départements de la région, c'est l'affaire des communautés urbaines. Oui, je vous disais, pour l'instant, seul le ministère de l'Intérieur gère ce dossier. Et il n'est pas compétent en termes d'accompagnement de l'enfance, il n'est pas compétent en termes de l'exercice, de l'effectivité de l'exercice du droit à la santé, il n'est pas compétent, mais qu'il accepte notre aide. Hein. C'est finalement pas très drôle ce que je voulais dire, c'était en fait au travers de cette exclusivité donnée de la gestion de ce dossier au ministère de l'Intérieur, c'est c'est quand même l'affichage, sans aucune, sans aucun complexe, de privilégier l'approche sécuritaire du problème pour décourager et pour nuire aux familles et les dissuader de rester. Voilà. C'est là qu'on en est aujourd'hui. C'est là qu'on en est. Le résultat, vous le connaissez, c'est une aggravation de la précarité. C'est donc une aggravation, et ça on le verra très certainement cet hiver, une aggravation des indicateurs sanitaires, mais c'est une aggravation des indicateurs sanitaires pour les familles qui restent, parce qu'elles n'ont pas de choix, parce que si on veut bien poser un petit peu la question de savoir quelle est la raison de leur présence, ils n'ont pas le choix, ces gens. C'est des migrants, c'est pas des touristes, c'est pas des nomades. Aggravation, oui, c'est ce que je vous disais, de la précarité et de son corollaire, le droit à la santé, qui entraîne un déni de droit manifeste et un piétinement des autres droits fondamentaux. Et ça, c'est pour chacun de nous un facteur d'indignation au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, pour résumer, ne nous trompons pas d'adversaire. L'adversaire, c'est pas les familles roms. L'adversaire, c'est la pauvreté. L'adversaire, c'est la précarité. Ceux qui vont faire l'objet de notre attention et de nos actions que j'espère coordonnées, que j'espère convergentes, ce sont pas les roms. C'est les précaires. C'est la pauvreté, portée aujourd'hui plus que d'autres, peut-être, par ces familles, mais c'est bien leur précarité et leur pauvreté contre lesquelles il va falloir agir. Lutter contre l'extrême pauvreté et ses conséquences sanitaires impose, rêvons, l'action de l'État. Et puis, à défaut, celui des institutions locales, départementales, régionales, avec le soutien actif de la société civile et des associations qu'on représente tous. Alors, si j'ai une prière à faire aujourd'hui, devant vous, et un élan à donner à cette réunion, c'est soyons prêts à ne pas ménager nos efforts dans nos champs de compétences chacun, la santé pour certains, l'éducation pour d'autres, la prévention, l'alphabétisation. On se comprend mieux quand on parle la même langue, l'alphabétisation. L'accès aux droits sociaux. 80% des gens ont des droits potentiels, mais n'ont pas de droits effectifs. Il faut les aider. L'accès au logement. Vivre sur le trottoir pour un nourrisson, c'est pas acceptable, quelles qu'en soient les raisons. Alors restons convaincants, restons coordonnés, groupés et restons indignés. C'est le moteur de notre action. Merci.